Oui.
À la une ce midi, le dossier de l'assainissement a pas pété, le ton monte. Chez les syndicats aussi, le ton monte, la CPME et la frappe n'iront pas à la présidence. Et on terminera avec ces histoires de vol de scooter à Phare. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Le dossier de l'assainissement à Papeete devient un sujet de discorde politique.
Il y a moins d'un an des municipales, les échanges par médias interposés commencent à Papeete. C'est d'abord Tahoriti Nena, des candidats déclarés pour prendre la capitale, qui s'inquiétaient du transfert de compétences de la SEM Teorano Ananai, chargée de l'assainissement vers la communauté de communes Teporionu'u, formée avec les mairies de Pire et Arwe. Pour lui, Papeete risquait de perdre le contrôle sur cet outil qu'il a financé avec des conséquences négatives pour les administrés. Autour de Rémi Briand, actuel adjoint au maire et lui aussi candidat déclaré à la mairie de Papeete, il est même le dauphin désigné de Michel Billard, de réagir. Il défend ce projet lancé il y a plus de 15 ans. Pas question de perdre le contrôle sur l'assainissement. Pire et Arwe sont de vrais partenaires.
Ça va nous permettre demain de voir autrement sur Papeete comment on va développer notre dispositif. 400 millions dans les réserves de la SEM, ce sont des provisions. Pour des chantiers futurs, ces mêmes provisions vont être affectées à la Comcom, qui la Comcom va faire ses projets avec nous. Nous, on est dedans. Et donc, on est des vrais partenaires. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Et puis Tahoriti Nena s'inquiétait de l'argent. Il parlait notamment d'un financement entier venant de Papeete pour construire la première station d'épuration. Faux, répond Rémi Briand. Les 7,5 milliards de francs ont été subventionnés à 90% par l'État. Et puis ce travail en coopération avec deux autres communes, eh bien, c'est l'avenir.
L'État et les collectivités, ceux qui financent aussi, poussent à ce que les communes se mettent ensemble sur certaines compétences. Ça peut être les déchets, ça peut être l'incendie, c'est beaucoup de choses. Donc on est plutôt dans cette tendance-là aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas réfléchir à très court terme et avoir des raisonnements un peu opportunistes, parce qu'il y a des élections. On est obligé de regarder dans le temps et préparer l'avenir. Et l'intercommunalité, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup écarté, parce que justement, il peut y avoir des conflits de pouvoir. Je pense qu'il faut passer ce cap.
Et voilà, une petite pique au passage à Tahoriti Nena sur un raisonnement opportuniste guidé par des campagnes électorales. La campagne des municipales n'est pas encore lancée officiellement, mais elle a l'air de l'être officieusement.
Actualité sociale maintenant, avec le boycott annoncé du 1er mai par deux syndicats.
Oui, le 1er mai c'est demain, et généralement les syndicats se rendent à la présidence pour célébrer ce jour férié dédié au travail. Mais ce sera sans la CPME et sans la frappe. On commence avec la CPME. Christophe Plé est très mécontent du projet de texte sur l'affiliation au RNS qui doit être envoyé à l'Assemblée dans les prochains jours. Un texte qui vise à soumettre à la cotisation maladie les personnes du RNS qui cumulent leur activité libérale avec un emploi salarié jusqu'à maintenant. Leur cotisation sociale était exclusivement prélevée sur leur salaire.
Finalement, on profite de passer ce texte pour remplir les caisses pour la protection sociale généralisée. On a l'impression quand même qu'on est quand même les dindons de la farce. Et on s'assoit sur le fait qu'il y ait des gens qui aient travaillé pendant des années sans compter leurs heures, souvent sans arrêt de maladie, sans congé payé. La personne constitue sa retraite et on lui dit à partir de 250 000, tous les revenus que vous avez, c'est 9,84%.
Le CESEC avait fait des observations sur ce texte en séance plénière, mais Christophe Plé dit ne pas avoir connaissance d'une nouvelle mouture qui prendra en compte ses remarques. Selon nos informations, une nouvelle version du texte doit bien être examinée en Conseil des ministres aujourd'hui, puis transmise dans la foulée à l'Assemblée. Mais il faudra qu'il y ait un changement de chiffre sur ce projet de loi du pays, sinon ça ne passera pas.
Pour nous, le seuil indiscutable des revenus, c'était 360 000, c'est-à-dire retraite tranche A plus retraite tranche B. S'il reste en l'état, il y a de fortes chances pour que la CPME attaque le texte, effectivement. On compte sur la bienveillance des gens qui sont à l'Assemblée, quand même, qui doivent quand même se poser la question. Pourquoi il y a une telle différence? C'est complètement disproportionné, quand même.
Et en signe de protestation, Christophe Plé annonce donc que la CPME ne répondra pas à l'invitation du gouvernement demain. Et puis c'est la frappe aussi qui a décidé de bouder la rencontre. La fédération dénonce, elle, le mépris manifeste du gouvernement à l'écart des fonctionnaires.
On parle sécurité maintenant. Le colonel Grégoire Demaison, commandant de la gendarmerie, était l'invité de la rédaction hier.
Et avec lui, nous avons abordé plusieurs sujets, notamment celui des violences intrafamiliales. C'est le grand point noir des bilans de la délinquance locale. Et une des priorités du Haut Commissariat. Une brigade spécialisée dans le traitement judiciaire de ces infractions va être créée d'ici la fin de l'année.
L'idée, c'est d'aller créer une unité spécialisée pour mieux prendre en compte le haut du spectre de ce contentieux. Elle aura une vocation exclusivement répressive, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas vocation à faire de la prévention, et donc elle traitera l'ensemble des enquêtes judiciaires concernant les faits les plus graves, puisqu'elle ne pourra pas traiter les 2000 affaires et 2000 victimes qui viennent à notre rencontre chaque année, mais elle traitera les faits les plus graves avec des enquêteurs spécialisés.
Et concernant la lutte contre le trafic d'ICE, le colonel Grégoire Demaison a assuré qu'il n'y avait pas de laxisme. Au contraire, les évolutions sont significatives ces dernières années. Le renseignement se massifie grâce à des outils comme l'intelligence artificielle, la coopération internationale et régionale ou encore les capacités d'observation, de surveillance et d'enquête. Et les chiffres sont là.
Avoir une solution hermétique, bien évidemment, c'est un vœu pieux. On peut mesurer l'efficacité des services à travers le volume d'infractions relevées en matière de lutte contre les stupéfiants. Ce volume d'infractions relevées, il est en hausse très significatif à la fois pour la consommation, pour la revente. On est, pour ce qui est de la gendarmerie, à 2500 infractions à la législation sur les stupéfiants constatées en 2024. Et deuxièmement, on a parmi ces 2500 infractions, on a 162 trafics démantelés.
Et pour ceux qui regrettent que la gendarmerie s'intéresse plus au PACA qu'à l'ICE, Grégoire Demaison assure que c'est faux, mais il dit aussi que l'ICE ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Le cannabis reste un sujet majeur en matière d'addiction, de santé et de délinquance, et sa vente un moyen de constituer la mise de départ pour se lancer dans des trafics internationaux plus élaborés. Son interview est à retrouver en intégralité sur notre site et notre page Facebook.
Troisième et dernière journée du procès aux assises où, sur le banc des accusés, se trouve un gendarme inculpé de tentative d'assassinat sur son fils.
Oui, les faits remontent à mars 2022 et ont connu une suite tragique. Eremo Hanna, le fils de l'accusé, s'est donné la mort 3 semaines avant le procès. Et c'est la troisième journée de ce procès. La matinée a débuté par l'audition d'un expert psychiatrique qui s'était entretenu avec Eremo Hanna avant son décès. Il avait noté chez le jeune homme le début d'une maladie schizophrénique, d'où ses idées délirantes de persécution. Confirmant ainsi les dires de son père et apportant un autre éclairage sur cette affaire. Au lieu de voir sur le banc des accusés un homme que l'on pouvait qualifier d'inhumain, on se trouve désormais face à un homme désemparé qui n'a pas su gérer la situation. Sa seule issue, projeter de tuer son fils et ensuite le suivre dans la mort. Pour le psychiatre, ce père ne voyait que cette solution. Une idée de mort à deux qui vient souvent dans des contextes dépressifs. Il précise aussi qu'au moment des faits, l'accusé avait une altération du discernement. L'avocat général a réclamé 20 ans de prison ferme, la défense s'exprimera cet après-midi et le verdict est attendu en fin de journée.
Et est-ce le début de la fin pour les tristement célèbres voleurs de scooters de Phare ?
Ils sévissaient depuis des années, ils ont déjà comparu devant le tribunal des enfants à plusieurs reprises et ils tenaient le haut de l'affiche sur la page Facebook Tahiti Vol. Deux jumeaux qui sont majeurs depuis 4 mois et désormais jugés comme tels et un mineur. L'un des jumeaux a été condamné lundi en comparution immédiate pour le vol de 2 scooters à Pamatei le 17 avril dernier. Il avait même été filmé par une caméra de surveillance. La vidéo partagée plus de 3000 fois. Reconnu en état de récidive légale après ses condamnations par le tribunal des enfants, le jeune homme a été condamné à 9 mois de prison, dont 5 fermes et maintenu en détention. Durant le sursis probatoire de 2 ans qui suivra, il devra effectuer 117 heures de travaux d'intérêt général, se soigner pour ses addictions et indemniser ses victimes. On n'a pas de nouvelles pour le moment de son frère et quant au mineur mis en cause, il sera jugé par le tribunal des enfants le mois prochain.
À présent, on part en Nouvelle-Calédonie où le ministre des Outre-mer vient d'arriver.
Emmanuel Valls a présenté son projet d'accord, l'inscription d'une loi fondamentale, c'est son nom, dans la Constitution française, ce qui consacrerait un nouveau statut au territoire. Les Nouvelles-Calédoniennes ont détaillé ce qu'on trouvera dans ce texte, une charte des valeurs, un code de citoyenneté calédonienne, les symboles comme le nom, le drapeau, les modalités d'exercice de la souveraineté, la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l'État, l'organisation institutionnelle, les conditions d'exercice du droit à l'autodétermination, mais surtout cette loi fondamentale donnerait à la Nouvelle-Calédonie la compétence de la compétence, c'est-à-dire la possibilité de modifier sans concertation avec l'État les règles relatives à son organisation politique et institutionnelle. Pour les loyalistes, c'est un saut dans l'indépendance et pour les indépendantistes, c'est inacceptable car ça ne répond pas à leurs revendications. La nouvelle phase de discussion entre l'État et les délégations calédoniennes s'est ouverte ce mercredi.
Du sport maintenant avec le traditionnel triathlon des entreprises.
Et oui, c'est demain. Si certains syndicats vont bouder la rencontre avec la présidence, comme on vous l'a dit dans ce journal, eh bien, on ne boudera pas notre plaisir d'aller faire du sport pour ce 1er mai. 34e édition du triathlon des entreprises, au programme 5 km de course à pied, 15 km de VTT et puis 500 m de natation. Le tout à partir du stade de Harouet et en relais avec les copains du boulot. Près de 400 équipes, soit 1200 personnes sont attendues. Et il y aura un parrain de choix sur la compétition avec l'athlète en or olympique, Kaoli Vast. Il participera également à la course en relais, départ prévu à 8h.
Et puis, il y aura encore de la course à pied ce week-end avec la Color Fun Run.
Oui, c'est prévu samedi, départ de la course à 16h30, organisé par la Tahitian Running Team. Il s'agit de s'amuser et surtout de ressortir le plus coloré possible de cette course de 5 km organisée à Faré-Outé.
Et du surf pour terminer, c'est malheureusement fini pour Moana Domenech.
Il était le seul représentant tahitien au championnat du monde de l'International Surfing Association de longboard au Salvador. Moana Domenech a été éliminée hier. Le champion de Polynésie a finalement buté sur un Australien très expérimenté et deux champions irlandais. Alors ce n'est pas la fin de l'aventure internationale pour le Tahitien puisqu'il prévoit de participer aux qualifications du Tour mondial de longboard WSL. Ce sera en fin d'année à Hawaï. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.